Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 26 mai 2014 avec en duplex Robert et dans les studios Jean-Pierre pour évoquer l'actualité européenne, internationale et nationale. Européenne à cheval sur le national et l'international. On va d'abord parler de ce sujet. C'est bientôt le 6 juin, heureusement. Les Américains vont pouvoir débarquer pour chasser les nazis hors de France une nouvelle fois. Ça, c'est des résultats. Il y a, bon, pour la France, tout le monde les connaît à peu près maintenant. On va peut-être attaquer par l'Europe carrément et puis voir. Alors, la grande première chose qu'il faut dire, c'est qu'au niveau européen, finalement, ben, ces résultats globaux hein, sur tous les pays de l'Europe, 751 députés, ne changent pas grand-chose. Le Parlement, certes, la droite a perdu une soixantaine de sièges, il en reste 215. Les socialistes en ont perdu 25, il en reste 189. 70 libéraux. 52 verts, vous en ont perdu quelques-uns aussi. 40 pour la gauche radicale, plus 7 là par contre. Et puis divers souverainistes et européanistes pas très convaincus. On se demande d'ailleurs pourquoi des gens qui sont opposés à l'Europe vont au Parlement européen, c'est pas très logique. Enfin, mieux d'aller à la pêche puisque ça les intéresse pas. Mais enfin bon, ils vont sûrement vouloir voter la dissolution du Parlement. On peut imaginer ça. C'est pas le premier problème qu'ils vont avoir à résoudre, ça va être d'élire un commissaire pour l'Union européenne. Et ça va pas être simple. Parce que il faut une majorité, et la majorité, enfin, d'abord, c'est pas eux qui le désignent, c'est l'Assemblée des gouvernements. Mais il y a les deux choses, paraît-il, il faut que les 28 chefs d'État tiennent compte de l'avis, du résultat des élections et de l'avis du Parlement. L'avis du Parlement, la majorité, c'est 376 sièges. Et comme je vous l'ai dit, ceux qui en ont le plus, c'est la droite avec 215. Donc on va vers des alliances tout azimut. On entrevoit évidemment quelques possibilités d'alliances, mais c'est quand même pas immédiat pour eux d'arriver à fonder une majorité à ce niveau-là. Alors Juncker est le favori. D'ailleurs, il s'est carrément déclaré le candidat du PPE, et donc le PPE étant le premier parti du Parlement, il pense que ça lui revient quasiment de droit. On dirait vraiment que les Européens font tout pour décourager les électeurs et les inciter à ne pas se rendre à aller voter. Juncker, c'est quand même le type qui a dirigé le Luxembourg pendant des années, qui a fabriqué le paradis fiscal du Luxembourg en Europe, et c'est ce mec-là qu'aujourd'hui on va vouloir mettre comme commissaire de l'Union européenne. Avouez que franchement, les bras nous en tombent. Schulz, bien sûr, mais il est un peu socialiste, même si c'est un socialisme très mou, et il est évident qu'il y aura beaucoup d'opposition. Les autres candidats, ils sont encore plus minoritaires, j'en parle même pas. Alors ça va tellement magouiller qu'il y aura peut-être finalement un autre nom qui va sortir du chapeau. Tout ça, c'est pour les jours, les semaines, peut-être même à venir. Voilà, je te laisse un peu dire des choses. Après, on balayera un petit peu pays par pays, si tu veux bien.
Oui, sur l'avenir de la Commission, effectivement, et de sa structure, est loin d'être acquise pour, on va dire, pour la stabilité. Et donc, pour rassurer ce qui, chez les Européens, pouvait éventuellement leur paraître comme inacceptable. Alors, il y a deux problèmes. Il y a le problème de la nature profonde de la majorité, qui est droite très, très marquée par l'idéologie, on va dire, anglo-saxonne du libre-échange, et dont d'ailleurs, chez Juncker, à plus forte raison, en tant que un grand pratiquant des paradis fiscaux, il voudrait poursuivre dans cette marche d'une Europe complètement intégrée au système anglo-saxon, avec des Anglais qui effectivement continuent de jouer cheval de Troie dans cette affaire, puisque en cultivant leur euroscepticisme, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un peu peut-être abusivement les europhobes, puisqu'on met de tout dans les europhobes, on y met l'extrême droite, mais aussi, on ne se gêne pas maintenant pour y mettre aussi la gauche radicale. Là aussi, il y a des confusions totales. C'est bien de ça dont, effectivement, on devrait parler à un moment où la discussion dans les coulisses se porte sur ce que l'on appelle le grand marché transatlantique, le GMT, qui en fait n'est rien d'autre que l'élargissement à tous azimuts de l'économie de marché dans un système donc d'économie libre, ouverte et totale, avec les Américains, entre l'Union européenne et les Américains. Alors effectivement, on a vu que même la droite est obligée de aujourd'hui de faire semblant qu'elle va surveiller un peu plus ce qui se dirait au niveau de cette négociation, mais ça va être un élément déterminant, sans doute, pour l'élection du président de la Commission de l'Union européenne. Et comme tu l'as dit, bon, ce président, il est dans une ambiguïté totale, puisque il a une souveraineté qui lui sera acquise avec le vote du Parlement européen, mais en même temps, il sera plus ou moins adoubé par les chefs d'État. Donc, on n'est pas encore sorti d'un système très 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 hybride et qui n'a peu à voir avec fonctionnement démocratique 100%.
Ouais, et puis en plus, il faut que les 28 chefs d'État soient d'accord sur le même nom. Alors
ça va... Oui, oui. En plus, voilà, c'est la loi. C'est pas le vote. Un vote majoritaire, c'est un vote consensuel. Il faut qu'il y ait un consensus qui se développe. Alors effectivement, on peut dire que le poids de ce qui ressort, hein, le poids les socialistes autour de 180-185. Moi, j'avais pas les mêmes chiffres que toi, mais les tiens sont peut-être plus actualisés.
Oui, puis c'est toujours un ou deux sièges près pour le moment, oui. Suivant les infos qu'on recueille, c'est jamais exactement le même chiffre.
Alors, si on comptabilisait ce qu'on pourrait appeler la gauche européenne, bien donc il y aurait 680 plus les 50, je sais pas combien, de verts, combien faut en
52 de verts, et puis une quarantaine de...
Oui, moi j'avais 45 pour la gauche radicale, mais possible. En fait c'est peut-être moins, oui. Donc ça fait à peine 100 qui s'ajoute aux 180, ça fait 280. Ouais. Donc
il manque une centaine. Hein.
Oui, la gauche européenne est loin de pouvoir aligner une majorité. Alors effectivement, il y a maintenant les opportunités qui fait que sur une proposition de gauche, on pourrait voir effectivement le jeu de tous ceux qui soit sont sceptiques, soit se reconnaissent dans l'extrême droite européenne. Et donc qui peuvent effectivement, par des votes d'abstention, finalement, bousculer. On aimerait non pas qu'ils soient les arbitres de la situation, parce que ça ne serait qu'effectivement montrer le désastre dans lequel on est, mais simplement que ça bouscule le petit jeu qui se met en place tranquillement dans la coulisse pour perpétuer un système où simplement il y aurait un peu plus de pouvoir pour le président de la Commission et la Commission elle-même. Alors, on peut dire des tas de choses. Hein.
Bah, oui, on peut balayer un petit peu les pays par pays. Alors, les Anglais, bon, nous, la France s'est réveillée avec une sévère gueule de bois, mais les Anglais aussi, puisque ils ont un parti, le UKIP, oui, qui, pour la première fois, va atteindre les scores qu'il a atteints et va envoyer des députés au Parlement européen. À un point qui se demande les Anglais si ce parti ne va pas, dans la foulée, pour la suite, arriver à entrer, en plus des conservateurs et des travaillistes, au Parlement anglais. Quoi. Ce parti réclame un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Bon, pour le moment, il n'est pas majoritaire, mais il a quand même fait 27,5%. Bon, c'est un peu comme chez nous, hein, avec le Front National. C'est un parti, bien sûr, qui est plutôt très à droite, mais qui néanmoins, ça on aura peut-être l'occasion d'y revenir, néanmoins ne veut pas s'allier avec Madame Le Pen, qui aura peut-être du mal à former un groupe, enfin encore qu'elle, elle a beaucoup de monde, donc oui, on l'a pas dit ça, mais un groupe parlementaire, ça a son importance pour la représentativité, pour le financement qui y est associé, mais un groupe parlementaire, c'est 24 députés, vous savez que j'ai noté ça, mais
25 oui.
Qui viennent de 7 pays différents,
oui.
Ça complique un peu les choses, ça complique pas les choses pour les socialistes ou pour la droite, mais pour des partis comme ça, ça complique les choses quand on pense que, justement, le UKIP ne veut pas s'allier à Le Pen, qu'il trouve trop raciste, elle-même oui. trouve trop raciste l'Obdo et des Grecs, elle ne veut pas s'allier avec eux. Bref, elle a la Ligue du Nord qui est tout près à constituer un groupe avec le Front National au Parlement
oui,
européen.
Oui, mais quand on sait comment ça fonctionne à Bruxelles, c'est les lobbies, mais en politique aussi. Et puis, avec sa puissance de feu, maintenant, le Front National peut acheter d'autres extrêmes droitistes européens.
Alors, donc, ce parti UKIP, pour la première fois en un siècle, donc, en Angleterre, arrive devant les conservateurs et les travaillistes, et ça, ben, ça les a laissés un peu baba, les Anglais. Enfin, il y en a qui, sûrement, sont contents, puisqu'ils sont pas arrivés sans voix, tous ces gens-là.
Mmh.
Voilà pour
oui,
l'Angleterre.
L'avantage, c'est que ça montre bien que, la Grande-Bretagne, ne devrait pas être dans l'Europe. Hein. C'est pas se montrer hostile aux Britanniques de le dire. Et d'ailleurs, on a noté que c'est pas pour considérer que c'est une référence, mais Michel Rocard, qui était interrogé hier, disait ben oui, finalement. On continue de vouloir absolument travailler avec les Britanniques, mais ils sont pas dans le même monde. Ils ont une stratégie qui est la leur et qui vaut ce qu'elle vaut. C'est la leur. Elle est liée à leur histoire, elle est liée à leurs intérêts, elle est liée à tout ce qui fait que les États-Unis, pour les Britanniques, c'est beaucoup plus important que l'Europe.
Alors la Grèce quand même, parce qu'il y a un pays au moins où la gauche est arrivée en tête, c'est dans ces élections européennes, c'est Syriza en Grèce donc, et ça c'est un peu une surprise, enfin pas pour tout le monde, mais c'est une surprise pour les conservateurs et les socialistes grecs qui se retrouvent les socialistes à moins de 10%, et qui n'auraient jamais cru ça. Mais il faut dire qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait auprès du peuple grec pour le décourager. Et Syriza, ben, avec en plus un candidat à la Commission européenne, a su séduire et faire comprendre aux gens qu'ils défendaient réellement leurs intérêts. En plus, dans le pays, c'était des votes d'élections municipales et locales, dans lesquelles, d'ailleurs, bon, là aussi, Syriza se comporte bien, mais le parti d'extrême droite, Aube Dorée, a quand même obtenu 4 arrondissements à Athènes et a fait des scores importants. Donc, une montée des partis extrémistes d'extrême droite en Grèce, parallèlement à ce succès de la gauche au résultat des européennes. Quoi. Tu voulais dire quelque chose de plus sur la Grèce?
Non, effectivement, ben c'est un peu le... on se demande pourquoi, et ça renvoie l'analyse que l'on peut faire en France, et notamment peut-être que, y compris, le front de gauche devra faire son autocritique, parce que ce que fait sa gauche radicale dans une situation plus difficile, puisque l'austérité est autrement plus dure en Grèce, ce qu'a pu faire Syriza et cette gauche radicale en Grèce auprès du peuple, le front de gauche en France n'a pas réussi à le faire. Et bon, on en parlera un peu, on terminera peut-être là-dessus sur la France, mais c'est intéressant de ce point de vue-là de voir comment les choses se sont déroulées. Alors d'ailleurs, on peut dire que c'est contradictoire, puisque finalement, par exemple, ça nous permet de passer au pays du sud de l'Europe, et là encore, c'est peut-être pays du nord, pays du sud, et pays de l'est, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'Union soviétique. Bon, on voit bien, il y a des... Pas des blocs, mais il y a quand même des zones, on va dire. Et dans les trois pays du sud, Italie, Espagne et Portugal, qui connaissent l'austérité peut-être plus violemment que même en France, eh bien, certes, il y a des pulsions d'extrême droite, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en France.
Alors l'Italie, t'en parlais, ben là c'est aussi un cas d'espèce, puisque Renzi est en train de, semble-t-il, pour le moment, de gagner son pari. Il crée la surprise avec son réformisme qui a su séduire la population. Le centre-gauche de Renzi arrive en tête. Bon, il faut dire que la droite là-bas est passablement défaite, avec toutes les merdouilles que Berlusconi a engendrées dans la vie politique de la droite italienne. Donc là, il a peut-être un peu moins de mérite de remporter l'adhésion grâce à ça. Mais en tous les cas, qui il y a 6 mois aurait pu penser que ce type-là fédérerait derrière lui? Donc avec Pepe Grillo en face, qui a fait quand même 25%, hein, en face de lui, il avait plus Pepe Grillo que la droite italienne. C'est assez curieux, les résultats de cette élection.
Et qui n'est pas un parti, bon, il a des moments, des comportements qui pourraient le placer à l'extrême droite de l'échiquier, mais finalement, son parti n'a rien à voir avec le Front National.
Donc au Danemark, l'extrême droite est arrivée en tête, aussi comme en France, donc c'est assez désagréable et inquiétant. En Hongrie, le Jobbik est parti aussi d'extrême droite, a eu 3 sièges. Enfin, il n'y a pas un pays pratiquement où l'extrême droite ne s'est pas manifestée dans ces élections, avec des élus à la clé, même si ce n'est pas un grand nombre comme pour la France, mais partout, il y en a eu. Après, on peut dire quelques mots des pays de l'Est, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie. Là, ce qui caractérise le plus, c'est l'abstention. On peut être un peu étonné que ces pays qui sont dans l'Europe depuis une dizaine d'années, ne s'intéressent... Bon, ils ont quand même touché les royalties, les fonds structurels, ils les ont vus arriver. En même temps, ils ont vu arriver aussi la pauvreté et la corruption, puisque les prétentions du FMI et des sbires de la BCE les ont mis au pas dans des politiques extrêmement de paupérisation. Quoi.
Et puis ils ont vu arriver effectivement l'inégalité importante avec des pauvres. Si dans un système socialiste d'avant, on pouvait être pauvre, mais c'était peut-être, c'est peut-être dur à dire, mais c'était plus facile d'être pauvre en système socialiste que d'être pauvre dans un système capitaliste.
Voilà, alors ça, là, l'abstention atteint des records qui laissent songeurs les Français qui se lamentent sur leur 57% d'abstention. En Slovaquie, il y a eu 13% de votants, par exemple.
Oui,
c'est un désintérêt total. Quoi.
Oui.
C'est étonnant. Hein, comme... Alors que la Slovaquie est en relation. On voit des camions slovaques, il suffit de se balader sur les routes ou sur les autoroutes. Je ne sais pas ce qu'ils transportent, mais il y a des camions slovaques partout en France. Quoi.
Oui, comme tous ces pays, et d'ailleurs on en parlera tout à l'heure avec l'élection d'un autre milliardaire en Ukraine. Ce qui les intéresse, c'est une pratique d'un capitalisme sauvage. Ils ont dit, bon, le socialisme, ça n'a pas marché, on a viré le socialisme chez nous, ben maintenant, on veut l'Eldorado. Et l'Eldorado, bon, la structuration de l'Europe, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir accéder au maximum du marché. Et puis, ben, et ramasser, comme tu l'as dit, des royalties en passant, mais pour eux, c'est pas en défendant l'Union européenne ou en se mobilisant dans l'Union européenne qu'ils pensent aller vers ce qu'ils espèrent tous, c'est-à-dire devenir des riches.
Voilà, on va peut-être parler un peu de la France maintenant. Donc, on l'a dit, 43% de votants, 57% d'abstention. Bon, alors est-ce que dans ces 57% d'abstention, il y a un changement du résultat ou est-ce que au même prorata, tout le monde avait voté, obligé de voter comme en Belgique, par exemple, 60 € d'amende, est-ce que les résultats auraient été différents? Bah, il paraît que c'est même pas sûr, quoi. En tous les cas, le FN fait premier, 24,9%, l'UMP 20,18%, le PS 13,9%. Alors, le nombre de députés correspond à peu près, hein, 24 pour le FN, 21 ou 20 pour l'UMP, 12 pour le PS. L'UDI, 9,9%, aura 7 députés. Les Verts, 8,9%, bon, ils auront une huitaine de députés. C'est pas un score catastrophique, sauf qu'en 2009, ils avaient fait le double quand même, pratiquement 16%. Et le Front de Gauche fait 6,34%, ce qui est à son niveau de 2009, donc il n'a pas perdu, mais il n'a pas non plus gagné de voix. Alors, vote protestataire, sans doute. Il faut dire que la classe politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, fait tout ce qu'il faut pour écœurer les lecteurs, hein, qu'il s'agisse des affaires Cahuzac et autres à gauche ou à droite, toutes les casseroles que traîne Sarkozy. Il y en a encore qui sont sorties aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis d'autres scandales à... Est-ce que c'est ça qui explique le vote FN? Enfin, les électeurs qui pensent que en élisant des gens du FN, ils auront des gens d'une droiture irréprochable qui n'a rien à voir avec ceux de l'UMP et du PS, ils se font beaucoup d'illusions et il ne suffirait pas de regarder bien loin derrière pour voir que c'est pas tout à fait comme ça. Hein. Mais bon, voilà. Alors, c'est surtout des jeunes qui ont voté. Les jeunes sont beaucoup abstenus, mais dans les proportions favorables au FN, il y a beaucoup de jeunes qui peut-être n'ont pas de vision historique et voient dans ce parti protestataire ce que les gens voyaient peut-être il y a 20 ou 30 ans dans le PC comme un parti de protestation contre le système, comme ils se plaisent tant à le dire, bien qu'ils soient les premiers à vouloir rentrer dans le système et à en profiter. Mais bon, cette cécité-là par rapport au FN est prégnante. Alors on peut dire aussi que le FN, on a tout fait pour qu'il en soit là où il en est. Hein. Ça a commencé avec Mitterrand, qu'il a sollicité en sous-main pour se faire élire et qui a tenu les promesses, les engagements qu'il avait dû prendre vis-à-vis des anciens de l'OAS à ce moment-là, et puis qu'il a amené à la télé, et petit à petit, ce parti qui aurait pu être interdit à de nombreuses reprises sur les bases de racisme, d'antisémitisme, jamais personne n'a eu le courage dans la classe politique d'être clair là-dessus. Donc il fait son chemin en se dédouanant un tant soit peu sur tout le travail de Le Pen-fille, des positions radicales du père et qui essaie d'éviter les dérapages, donc de se donner une respectabilité de façade qui arrive peut-être à tromper effectivement un certain nombre de gens. Et les voilà un petit peu enracinés dans le système. Alors, ils en sont à réclamer la dissolution de l'Assemblée nationale, bien sûr. Ils en sont aussi à réclamer, et ça, on verra aux prochaines élections législatives, une représentativité à la hauteur de leur pourcentage dans le corps électoral, dans les systèmes, qu'il s'agisse des élections législatives, régionales, communales et autres. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus. Peut-être tu as quelques réflexions aussi.
Ben c'est que bon, le retour à la proportionnelle, il est demandé bon, par beaucoup de monde à gauche. Il y a plutôt toujours un désir de proportionnelle. Mais l'appareil du Parti Socialiste, et comme tu l'as expliqué là, avec la manière dont Mitterrand a utilisé et a fait école, et puis ça continue après avec aujourd'hui un retournement de situation. C'est-à-dire que ce qui a été utile à une époque à la gauche, et bien aujourd'hui ça la condamne à disparaître provisoirement, faut l'espérer. Surtout, enfin, ça dépend de quelle gauche. Qu'est-ce qu'on appelle la gauche? Et comme disent beaucoup de gens maintenant, avec les orientations de Hollande, en plus marquées par le choix de Valls, fait dire à beaucoup que le PS, c'est finalement la gauche de la droite, et que donc il n'y a plus de gauche, sauf ce petit morceau de gauche radicale, rescapé d'une autre époque, par exemple l'époque communiste à travers le Parti communiste. Il est probable d'ailleurs que le Front de gauche continue, parce que en plus les campagnes souvent montrent toujours, ont toujours tendance à faire apparaître que attention, là, chez ces radicaux, là, il y a, enfin, gauche radicale, il y a encore les communistes. Et de ressortir, effectivement, dire, bon, ben, de la description des gens qui sont des communistes, à dire, ben, finalement, ils ont été, même si ce n'est plus les mêmes générations, ils ont été staliniens, etc. Donc, là aussi, hein, sans doute beaucoup de réserves pour face aux campagnes médiatiques, beaucoup de réserves pour des jeunes de s'engager, par exemple, dans le cadre du Front de gauche, parce qu'il y a des campagnes très dures qui sont faites soit en utilisant le Parti communiste comme un
repoussoir,
oui, ou comme des gens, ou en utilisant les propos souvent, effectivement, il aurait peut-être mieux fait d'éviter, enfin, sachant que c'est utilisé par la presse contre lui et contre la gauche radicale, enfin, de Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement lui aussi a été manipulé. Il croyait que c'est lui qui allait gagner son duel avec les journalistes, mais c'est toujours le contraire qui se passe.
On notera au passage aussi cette chose un peu exaspérante de voir les journalistes considérer le Front de gauche comme des anti-européens, quoi. Et ça, c'est un peu scandaleux quand même. Tous les gens qui veulent une autre Europe que l'Europe libérale, que celle l'Europe du fric, en un mot, hein, fric roi, l'Europe des banques, eh bien, sont considérés comme anti-européens, quoi. Une Europe fraternelle, une Europe des peuples, une Europe sociale, ils l'imaginent même pas, ça ne les intéresse pas, et des gens qui sont dans cette revendication, ce qui est le cas du Front de gauche, bien sûr, eh ben, sont considérés comme anti-européens et vont être classés comme ça au Parlement. C'est hallucinant un petit peu.
Alors que l'Europe à sa création, bon, effectivement, c'était très vite, ça a été perverti, mais à sa création, il avait pour objet, effectivement, l'Europe sociale. L'Europe sociale était aussi importante que l'Europe économique et financière. Mais on ne parlait même pas d'Europe financière à l'époque. Oui.
Voilà, d'autres choses à dire sur la situation française. Ben, le FN donc est arrivé en tête dans toutes les régions, hein, sauf l'Île-de-France et le Grand Ouest où elle est deuxième. Le PS est partout troisième, c'est clair, comme tout. Donc bien sûr, dans l'atlas politique moyenne, c'est un petit séisme et un choc dont ils vont essayer de se remettre dans les jours qui viennent. Pépère parle de tirer des leçons, mais je vois pas bien quelles leçons il peut tirer. Peut-être qu'il veut se faire harakiri, parce qu'il avait cru déjà faire un coup avec Valls, et ça lui revient comme un boomerang, quoi.
Ben demain, je crois qu'il y a une réunion des chefs d'État européens, demain mardi à Bruxelles, et donc ça va être un Hollande qui normalement devrait plutôt faire profil bas, mais le connaissant, il est capable de faire de par un jeu d'humour à dire que finalement la France eh bien elle a mis le doigt là où ça fait mal, où le peuple a mis le doigt sur la plaie.
Voilà, on donne quelques autres infos internationales avant de faire une pause musicale. Dire quelques mots de l'Ukraine quand même. Hein. L'Ukraine où il y avait des élections avec le roi du chocolat. Je ne savais pas que c'était le roi du chocolat, Porochenko, mais donc il a été réélu. On ne sait pas bien les nombres de voix, les pourcentages pour le moment. On sait que dans l'Est de l'Ukraine, il n'y a pas eu d'élection parce qu'il y a eu 10 à 15% des électeurs qui n'ont pas voté, qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu voter. Aucun bureau d'ouvert à Donetsk, par exemple. Et donc un président élu, oligarque, qui paraît-il connaît bien Poutine, en bien et en mal, et qui prétend tout de suite remettre l'Ukraine sur certains rails, et entre autres poursuivre les attaques militaires, on peut dire, enfin la normalisation à l'est du pays, de manière militaire, quoi.
Ah ben c'était un homme tout à fait, c'est un homme habile comme le sont toute cette classe de milliardaires qui ont récupéré tout ce qu'ils ont pu récupérer à la fin de l'ère soviétique, et ils ont beaucoup récupéré et il était partout, il était avec tout le monde, il a été avec Timoshenko, il était avec Yanukovych, il a été après à Maïdan, sur la place, protester également contre ceux qui l'a soutenu avant. Bon, c'est, et en plus, il avait gardé des rapports avec les Russes. Alors, c'est effectivement... on va dire, effectivement, il y a la mafia des plutocrates qui joue à fond, et Poutine, qui est un fin politique, eh bien, il a compris que finalement, il avait intérêt à reconnaître finalement cette élection, n'en déplaise à tous les russophones de l'Est de l'Ukraine qui... Oui. qui vont avoir beaucoup de problèmes à rentrer dans le rang.
Oui, on se demande même si Poutine n'estime pas qu'il commence à être passablement encombré par les Ukrainiens radicaux qui font peut-être à son goût finalement un peu trop de zèle de l'autre côté de la frontière là-bas.
Oui. Ceci dit, oui, les Russes avaient expliqué à la conférence de Genève que ils n'étaient pas pour une séparation, une rupture entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine, mais simplement pour prendre en considération tous ces ressorts, à la fois le ressort économique et le ressort linguistique, eh bien, il fallait faire une Ukraine fédérale avec plus d'autonomie dans les régions. Et il n'est pas impossible que le nouveau président, mais à mon avis, j'ai cru comprendre qu'il avait beaucoup moins de pouvoir, parce que dans l'intervalle, il revient à une constitution antérieure à Yanukovych, c'est-à-dire qu'il a pas autant de pouvoir qu'ont pu en avoir et Yanukovych et même Timoshenko en tant que président. Mais il va sans doute, peut-être, tous les deux, avec les Russes, négocier quelque chose qui serait un système un peu fédéral ou confédéral pour éviter les susceptibilités. C'est pas impossible qu'ils y parviennent, et je crois que c'est... De toute façon, Lavrov l'a redit aujourd'hui, je crois que finalement, ça reste la stratégie des Russes depuis le début.
Alors, rester dans la région, la Pologne, peut-être tu veux dresser des lauriers et un hommage funèbre à Jaruzelski, qui vient de décéder à 90 ans. Peut-être tout le monde ne le connaît pas, cet homme-là. C'est lui qui, à l'époque, en 81, le 13 décembre 81, a fait une sorte de coup d'État avec l'appui de l'URSS à l'époque pour... renormaliser la Pologne qui, sous l'action de Solidarnosc, donc, prenait ses aises par rapport au régime communiste, quoi. Donc, d'une main de fer, ça a été terrible, hein. Il a mis 6000 personnes de Solidarnosc en prison. C'était l'état de guerre, comme il avait dit. Et puis, bon, finalement, les choses ont évolué quand même. La Pologne a développé son anticommunisme avec sa religiosité. Et en 90, Waleza était président, donc 10 ans après, on peut dire, quoi. Alors, bourreau ou sauveur de la Pologne, ben, selon le point de vue duquel on se place, il a droit à ces deux attributions.
Oui, effectivement. Et, ben, lui, il prétend, et peut-être que c'est la bonne interprétation, qu'il a évité l'intervention des chars soviétiques en prenant le pouvoir. En faisant un coup d'État, bon, maintenant, l'histoire n'aura jamais le fin mot, mais ce qui par contre apparaît, et tu l'as souligné, c'est qu'après, Solidarnosc, ça a été quelque chose d'important au niveau de la montée de la démocratie, et puis après ça a dérapé, parce qu'effectivement cette inféodation à l'église catholique, et en plus une église catholique polonaise très très rigoriste, ça a dérapé, quoi. Ça a dérapé d'ailleurs, on sera pas méchant, mais on pourrait dire que peut-être pas dans les poubelles, mais que Lech Walesa lui-même termine assez mal sa vie en tant que homme qui a amené la Pologne vers ce qu'elle est aujourd'hui.
Voilà, d'autres sujets internationaux?
Non, on parlait de l'Église. On peut dire quelques mots peut-être de François.
De futur Saint-François.
François qui allègrement est allé taper dans le mur que les Israéliens ont construit pour faire comprendre que ce mur, il est de trop, qu'il faut absolument trouver la paix, qu'il faut qu'on abatte le mur. C'est une image forte, mais on peut douter de ses capacités à pouvoir faire changer les choses.
Donc en Jordanie, au Proche-Orient d'une manière générale, à Amman, il a fait une messe où il a regroupé du monde, ça marche toujours, ce genre de truc. Puis hier, dimanche, il était à Jérusalem, en arrivant tel Jésus du ciel, bon, un hélicoptère, mais quand même, c'est pas l'Assomption, c'est le contraire. Et il a rencontré ensuite Pérez et Netanyahou, et il s'est payé le luxe d'aller dans la vieille Jérusalem, peut-être un peu pour lutter contre la concurrence aussi, hein, se confronter aux symboles de l'islam et du judaïsme.
Mais oui, il y a quand même, c'est quand même la région des trois églises monothéistes. Et oui.
Et la troisième, elle souffre actuellement, hein, elle n'a pas le dessus du pavé. Voilà, on dira un mot de cet attentat en Belgique, qui de toute évidence est antisémite quand même, un type qui descend d'une bagnole et qui rentre dans l'entrée d'un musée juif pour qui décharge Kalachnikov, 4 morts, dont 2 Israéliens ou Israéliennes, je ne sais pas, et 1 Français ou 1 Française. Quoi.
Oui, c'est probable, et en même temps, c'est difficile à affirmer parce que c'est... il y a des visiteurs dans ce musée, il en vient de partout, et puis de toutes les religions, et il y a même des athées qui le visitent, tout ça. Donc, on croit savoir qu'il a tué des personnes, alors ça peut être pour faire peur aux autres, mais aussi. Et il n'a pas choisi, je veux dire, d'avoir la conviction qu'il abattait des juifs. Donc, ce qui fait dire à la police que la police belge, qui est à la différence de François Hollande, qui lui tout de suite a dit ça, c'est antisémite. Il y a des fortes probabilités, mais je veux dire, il n'avait pas besoin de faire cette déclaration, et il pouvait effectivement, hélas, le laisser entendre, mais pas l'affirmer comme il l'a fait. Bon, et la police belge, de ce point de vue-là, est sans doute plus prudente fait mieux son travail de police que la police française. Voilà.
Voilà, allez, courte pause musicale, on va la faire avec de la country. Si vous aimez la country, ce vendredi 30 mai à Salaise-sur-Sanne, c'est un peu au sud de Vienne, donc il y a un petit festival, si on peut dire, une soirée, en tout cas à 21h, avec Alice's Country Band et les Bootleggers. Alors je vous propose d'entendre un morceau de Alice's Country Band, ce sont deux groupes français de country. Le morceau s'appelle Mary. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 26 mai 2014, et on arrive à la rubrique nationale, élections européennes mises à part. Alors, on peut dire quelques mots des exploits de l'UMP, là, la crise, l'affaire Big Malion rebondit ce soir avec trois députés UMP qui sont comme témoins à la PJ de Nanterre, avec le Kelsey qui est en garde à vue, son nom ne me revient plus, et dans une affaire qui commence, où on commence à comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'est toujours Sarkozy qui est au milieu du ring, là, mais il se cache, il est petit, il n'a pas de mal, un petit peu dessous. Il semblerait que les 20 millions d'euros payés, facturés par Big Malion pour des conventions, entre guillemets, on ne sait pas bien ce que c'est, comme c'est des facturations fictives, on devrait savoir. En fait, ce serait une embrouille tout simplement pour dissimuler les surcroîts de dépenses de Sarkozy pendant sa campagne de 2012, et que c'était une bonne manière de les faire sortir donc des comptes de campagne et en même temps de financer ceux à qui on les devait ou ceux qu'on achetait avec ces 20 millions d'euros. Ça n'a pas suffi, comme vous savez, pour gagner les élections, mais ils avaient pourtant mis le paquet. Enfin, on sait que dans le parti de l'argent, c'est normal qu'on brasse beaucoup d'argent. C'est ainsi que la vie politique va aussi, hélas.
Oui, et Pygmalion a fait donner de la voix à son avocat cet après-midi, Maisonneuve. En plus, c'est un grand avocat, Maisonneuve. Il a souvent d'ailleurs dans les affaires de l'UMP et des dossiers financiers. Et Maisonneuve, il a dit, mais bon, quand on dit fausse facture, ça ne veut pas dire facture fictive. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des prestations. Les prestations, enfin, Dixit, hein, les prestations existent simplement alors qu'elles auraient dû être facturées dans le cadre de la campagne de Sarkozy. Elles ont été facturées, mais alors là, elles ne donnent pas de nom. Hein, qui finalement, qu'est-ce qu'il y a de marqué comme nom sur les factures? C'est pour ça que ce soir, en catastrophe, si ce n'est pas trop tard, déjà, les inspecteurs sont en train d'opérer des
perquisitions, non ?
Pour sans doute essayer de savoir effectivement. Donc il y aurait des prestations, mais au lieu d'être facturées compte de campagne de Sarkozy, elles ont été facturées ailleurs. Mais elles ont servi, en fait, c'est facile. On voit bien que les prestations, ça ne peut couvrir que des meetings ou des choses politiques. Donc c'est difficile de. Ça sera sans doute impossible à cacher. Fillon en profite, hein, lui il a déjà annoncé la couleur. Il attend demain que l'équipe, demain matin, que l'équipe Copé rende son tablier. Ce que Copé n'a pas forcément envie de faire. Et il va dire présomption d'innocence.
D'autant plus qu'il est un peu disculpé dans cette affaire. On laisse entendre qu'il n'y a pas eu de profit personnel pour lui dans ces manipulations frauduleuses. Quoi. Alors, possible, hein, bon, à voir. Quoi.
Alors, il y en a un autre qui proteste, un autre baron du gaullisme et du système de cette droite-là, c'est Lelouch. Alors, Lelouch, lui, il a appris que son nom figurait dans le circuit. Et donc, comme quoi, il aurait lui aussi bénéficié de cet argent ou parce qu'il faisait des prestations, etc. Et il a dit, mais non, jamais. Et on a utilisé mon nom et il porte plainte. Et enfin, c'est vraiment un truc d'une... Ça apparaît, hein, vu d'ici, comme d'après tout ce qui se dit aujourd'hui, comme quelque chose même beaucoup plus grave que les habituels pots de vin dans le cadre des marchés. On peut penser à Taïwan et puis d'autres, et puis Karachi, et puis tout ça. Je veux dire, c'est d'une ampleur sans précédent, hein, je crois, sous la Ve République. Il y a d'autres, effets du hasard, mais... les hommes de Sarkozy sont vraiment coincés partout. Hein. Il y a Guéant qui est en garde à vue. C'est pas n'importe quoi une garde à vue quand même, qui est en garde à vue, mais c'est sur le dossier tapis, hein, ce fameux accord qui est intervenu dont a bénéficié tapis. Et Madame Balkany, qui elle aussi a eu droit à une mise en examen et pour blanchiment de fraude fiscale. C'est une affaire, il y a longtemps que ça aurait dû aboutir, mais là voilà que coup sur coup, toutes ces affaires se retrouvent pratiquement en quelques jours sur le devant de la scène. Et Mme Balkany, elle a pu éviter d'être embastillée en versant 1 million,
oui,
1 million de caution.
C'est le fusible de son mari, surtout.
Oui, mais alors, habituellement, les procédures des juges, c'est... pour le principe, je crois qu'ils mettent la personne bon, sur lequel ils ont délivré un mandat d'arrêt, ils mettent en prison jusqu'au règlement de la caution. Mais là, on a l'impression que le chèque de caution était déjà prêt avant.
Les Balkany. Alors lui, il est protégé par son immunité parlementaire. C'est bien dommage, on va dire. Et on va voir jusqu'où il s'acharne sur elle. Mais il va bien falloir que ça rebondisse aussi sur lui, puisqu'ils sont intimement liés dans les multitudes de malversations. Il s'est fait réélire après avoir été condamné. Enfin, les gens sont incroyables, quoi. Mais on en a des preuves tous les jours, hier aussi.
Quand on voit, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours, peut-être même moins, c'est le Figaro qui, effectivement, pour essayer de sauver l'UMP, avait ressorti un dossier de corruption ou de malversation fiscale qui concernait Le Pen, la famille Le Pen.
Le Pen et les ciments Lafarge.
Et ça n'empêche pas les gens d'aller voter pour ces gens-là. C'est quand même la nature humaine est bizarre.
On dira un mot des militaires aussi. C'était la semaine dernière, ça. Mais ils se sont fâchés. Hein. Ils ont dit que tout l'état-major voulait démissionner. Et pourquoi ça? On demande des efforts aux Français et on les voit, on en voit les effets. Il fallait réduire les budgets de tout le monde, mais les militaires entendent que leur budget à eux soit sanctuarisé. J'aime bien le mot. Hein. C'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Et comme il y a eu des couacs dans le gouvernement et qu'on avait laissé entendre parler d'une réduction de 12 milliards, ça a beaucoup énervé les militaires qui ont décidé que pour leurs petits joujoux de gaspillage divers et variés, il convenait de ne pas retirer un centime, menaçant de démissionner. Je trouve que ça aurait été une bonne idée, ça, qu'ils démissionnent. Eh ben non, finalement, ils n'ont pas démissionné, ils ont eu gain de cause. Et donc, vous aurez à vous serrer la ceinture, eux pas, quoi. Certains vous expliqueront qu'ils ont déjà beaucoup donné en ayant réduit ceci, cela, mais l'armée, c'est quand même 25%, je crois, du budget de la nation, ou quelque chose comme ça. On est tout ça pour lutter contre les quelques Africains du Mali et du Nigeria, peut-être, ça fait beaucoup. Chantier naval à vendre, Saint-Nazaire, pourtant ça marche bien, on nous annonce des carnets de commandes remplis avec des bateaux splendides pour mettre des milliers de retraités nantis correctement pour passer quelques semaines dans les mers. Eh bien le groupe sud-coréen qui avait racheté ça pour des raisons de spéculation, on va dire, souhaite se séparer de ces sites de construction navale. Pas seulement en France, je crois au Danemark, aussi en Norvège. Et donc Saint-Nazaire est à vendre et cherche repreneurs, ce qui ne manque pas d'inquiéter les milliers de personnes qui travaillent sur ces sites et qui ont du boulot, mais qui aimeraient bien que leur situation ne soit pas sacrifiée.
On peut rester dans le social. Je voulais signaler que une pétition, bon les pétitions, hein, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas avec ça souvent qu'on fait vraiment bouger les choses, encore que maintenant dans la nouvelle définition des droits des citoyens avec des millions de signatures, on pourrait faire avancer peut-être des débats. Toujours est-il qu'il y a une pétition concernant Alstom, pétition dont le titre est « Appropriation collective ». Donc on a bien compris, c'est pour ne pas sortir le terme de nationalisation qui a été souvent d'ailleurs dévoyé ou qui a une mauvaise réputation. Donc appropriation collective, c'est-à-dire que Alstom, de par ce qui a fait ce qu'il est aujourd'hui, ce que cette entreprise est aujourd'hui, pour bien redevenir la propriété de tout un chacun. Donc il y a une pétition que l'on peut signer et qui est sur qui a le site c'est appel hein, comme un appel -alstom.fr. C'est très simple, appel-alstom.fr, appel au singulier. On se souvient que la décision a été reportée de plusieurs semaines parce que les deux voraces General Electric et Siemens, pour l'instant, sont d'accord pour temporiser. Et Montebourg, il s'amuse au milieu de tout ça à essayer de faire qu'on oublie ce sujet-là lorsqu'il faudra liquider Alstom. Et puis, ce que je voulais aussi signaler, ça fait pas beaucoup de bruit, mais beaucoup de communes, alors je sais pas si dans la région de Lyon, et à Lyon même d'ailleurs, il y en a une de votée, mais beaucoup de conseils municipaux votent des résolutions ou des motions pour demander stop TAFTA. Donc on l'a expliqué, TAFTA c'est la négociation secrète autour du grand marché transatlantique Union Européenne et États-Unis, et que les communes se déclarent zone hors TAFTA, considérant que effectivement ce qui est contenu dans cette négociation avec le mandat qu'avait reçu la Commission, d'ailleurs tout le monde espère que, mais n'y croit pas trop, que le prochain Parlement européen mettra un holà à cette négociation, mais on n'y croit pas trop. Donc ça signe un peu partout dans les communes, et c'est souvent les petites communes qui votent cette motion et qui déclare, qui se déclare zone hors TAFTA. TAFTA, c'est la même chose que GMT, hein, c'est le sigle en langue anglaise, TAFTA, Grand Marché Transatlantique, et on signe donc zone hors TAFTA.
Voilà, donc on arrive à la fin de ce journal. Les annonces culturelles, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il est vrai que jeudi, c'est un jour férié. Ça calme les ardeurs des théâtreux et autres musicaux, tout ça. Dès qu'il y a un jour férié, il y a beaucoup de leur clientèle qui se barre à la campagne, voire à la mer. Donc, il y a peu de choses. On signalera quand même la journée nationale de la résistance, qui n'a rien à voir avec les loisirs. C'est mardi 27. Elle a été acquise, reconnue de haute lutte pendant de nombreuses années, donc qui commémore la constitution du CNR, et un certain nombre de communes, comme Vaux-en-Velin par exemple, organisent Vénissieux diverses manifestations autour de la journée nationale de la résistance. Mardi 27 aussi, si vous êtes un adepte des découvertes, à tout bout de champ, on vous propose la finale des tremplins. Voilà, on n'aura pas tout traité, mais on a gardé des sujets pour la semaine prochaine. Le coup d'état militaire en Taïwan, l'élection à venir du général Sisi en Égypte, la visite impromptue de Obama hier après-midi en Afghanistan, la reconduction avec l'investiture de Zuma en Afrique du Sud, Nigeria et les exploits de Boko Haram qui continuent ces massacres. Vous voyez que l'actualité est riche. Mais ce Canu Info, vous pourrez le réentendre demain à 8h. Nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Et on va se quitter avec une production musicale toute récente, la fanfare d'Angouba. C'est de la musique des Balkans qui vient donc de produire de nouvelles musiques. Bonsoir.